Gloire à notre Dieu. Je voudrais vous saluer les uns et les autres, en tous les cas ceux que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de passage parmi nous ce matin. Et si c'était le cas, bien, nous souhaitons bien sûr la bienvenue. Nous nous réjouissons toujours dans la présence du Seigneur et ce matin, je vous propose de faire avec moi une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, Matthieu, chapitre 26, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous. » Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » J'aimerais ajouter juste quelques versets que je vais lire pour vous. Je vous donne quand même la référence. C'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 6, qu'il est dit ceci. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. » Nous allons demander au Seigneur de nous guider. Seigneur, merci pour ces moments que nous venons de vivre ensemble dans la communion fraternelle, en te louant, en célébrant ton nom. Seigneur, ce qui nous réjouit, comme cela a été dit tant de fois ce matin, c'est que tu es là. Et nous sommes tellement heureux de t'ouvrir notre cœur pour que tu y puises à l'intérieur de nous-mêmes toute la reconnaissance qui te revient à cause de l'œuvre que tu as accomplie en notre faveur. Seigneur, nous venons d'ouvrir ta parole et nous te prions que ton esprit éclaire notre entendement. Nous avons besoin de toi. Mes frères et sœurs ici présents, autant que moi-même, nous avons besoin de ton onction divine. Et nous désirons, Seigneur, que ta parole se grave en nous. Enseigne-nous ce qu'est ta volonté et aide-nous à marcher dans tes voies en nous appuyant sur ton bras fort et puissant. Comptant sur ta grâce, nous te louons encore une fois dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais commencer par vous rapporter une constatation que j'ai faite depuis quelque temps en venant ici dans ce lieu. Il y a plusieurs dimanches que j'ai eu l'occasion de partager avec vous ces moments de communion fraternelle. Et j'ai constaté, mais je comprends la raison pour laquelle il en est ainsi, que ce que nous appelons la table du Seigneur n'a pas été dressée. Il se peut fort bien que ça tombe dans des circonstances qui sont tout à fait propices, parce que nous ne pouvons pas prendre le repas du Seigneur n'importe comment, et nous avons besoin de bien saisir dans quel esprit et dans quel état de cœur nous devons et pouvons nous approcher de la table du Seigneur. Bien entendu, ne voyez pas au travers de ce que je viens de dire, un reproche, quel qu'il soit. Mais dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, et au verset 25 en particulier, Paul rapporte ce qu'il a reçu du Seigneur au sujet de la manière de célébrer le repas du Seigneur. Et il termine cette déclaration en disant, quand vous faites cela, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Autrement dit, le point culminant, je dirais, de l'Évangile et de l'histoire de la rédemption, c'est la croix de Jésus et c'est l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur. Et je lis aussi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, un passage où il est dit « Le premier jour de la semaine, les croyants étaient rassemblés pourquoi ? Pour rompre le pain. » Dans ce que l'on a appelé les ancres de l'Église, au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, entre autres choses, après l'écoute de la doctrine apportée par les apôtres, après les temps de communion fraternelle, après les temps de prière, il y a aussi une autre ancre solide pour l'Église qui s'appelle « rompre le pain ». Alors, je voudrais vous dire que je souhaite de tout mon cœur que ce ne soit plus jamais le monde extérieur qui impose à l'Église ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit accomplir. Bien sûr, nous devons être attentifs à être soumis aux autorités. Nous devons aussi être attentifs à agir avec sagesse. Ça, c'est un point qui est très important. Mais en même temps, vous en conviendrez avec moi, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a donc une riche bénédiction quand nous nous retrouvons dans la communion fraternelle et que nous nous engageons pour non seulement adorer Dieu de tout notre cœur pour ce qu'il a fait, mais nous rappeler aussi ensemble tout ce qu'il a accompli en notre faveur. Et le moyen que Dieu nous a laissé, que Dieu nous a donné, pour que nous puissions nous remémorer le sacrifice sans lequel nul d'entre nous ne pourrait dire qu'il est sauvé, eh bien, c'est le repas qu'il a institué lui-même, la dernière Pâque qu'il a célébrée ici-bas sur la terre. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, la Pâque célébrée selon la coutume juive n'a plus aucun sens, n'a plus aucune raison d'être, pour la simple raison que désormais, il a établi un fait dans lequel nous devons voir ce qu'est la volonté de Dieu pour nous et nous réjouir en espérance. Parce que non seulement nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait pour nous, mais en même temps, Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. » Il y a donc une espérance. Et l'espérance qu'a le peuple de Dieu, c'est le retour de Jésus. Vous savez, nous serions tellement plus heureux si dimanche prochain nous n'étions pas là, mais que nous étions tous dans le ciel. Nous serions tellement plus heureux si le Seigneur venait pour nous prendre avec lui selon la promesse qu'il a faite. Mais quand nous nous retrouvons autour de la table du Seigneur, eh bien, c'est un moyen de nous souvenir de toutes ces choses-là et en laissant l'Esprit de Dieu nous sonder, eh bien, nous renouveler dans une joie intime et pure et profonde. J'aimerais vous dire que l'ennemi de notre âme ne cherche qu'une seule chose, c'est nous empêcher de nous réjouir dans l'œuvre rédemptrice et salvatrice de notre Seigneur Jésus. Et j'ai constaté, en lisant les évangiles, comme vous avez pu le constater également, que le diable, dès le commencement, a voulu empêcher le plan de Dieu, et en particulier, Il a voulu toujours faire mourir le Seigneur, non pas selon le dessein de l'Éternel, mais selon ce qui était son désir qu'il n'a pu accomplir. Et il cherche encore une fois à quoi faire ? À nous voiler la réalité des bénédictions qu'il se trouve dans l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur. Regardez comment il s'est pris dès le commencement. Dès sa naissance, un roi que vous connaissez tous pour avoir lu dans la parole de Dieu son histoire, Hérode, a cherché à quoi faire ? À faire mourir Jésus, parce qu'il a précipité tous les enfants qui étaient nés au même moment dans la mort. Mais Dieu, qui est fidèle, et quand il a dit une chose, il l'accomplit toujours, a veillé pour que ce bébé, cet enfant Jésus, soit préservé de la mort, pas en tous les cas de cette mort-là. Parce qu'il était venu pour mourir sur la croix. Et sans cela, ni vous ni moi, nous ne pourrions être là ce matin pour rendre grâce à Dieu. Un peu plus tard, Jésus s'est retrouvé dans le temple de Nazareth. Et il est arrivé avec le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé devant l'auditoire, il a dit simplement cette parole prophétique qui est écrite dans ce livre se trouve réalisée en moi, accomplie en moi. Et il a mis en évidence ce qu'était la vérité de Dieu. Et la conséquence, si vous avez lu ce passage, vous la connaissez, c'est que tous les hommes religieux qui ont entendu cela, voyant que Jésus se faisait l'égal du Père, ont décidé de le faire mourir. Et la Bible m'apprend qu'ils ont conduit le Seigneur jusqu'à une grande montagne, et là, depuis une certaine falaise, eh bien, ils voulaient le précipiter en bas. Mais la Bible déclare que Jésus est passé au milieu de la foule, et personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit, et il a été épargné de cette mort qui n'était pas dans le plan de Dieu. Plus tard encore, il y a eu une autre occasion, notamment quand les chefs religieux, toujours pleins de jalousie, toujours pleins de haine, ont envoyé des huissiers vers le Seigneur Jésus pour prendre en défaut les paroles du Seigneur. Mais ils ont écouté attentivement. Et après avoir écouté attentivement, vous savez quel est le rapport qu'ils ont fait en revenant vers les chefs religieux. Ils ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cela a rempli encore plus de colère les gens qui les avaient envoyés, en pensant peut-être qu'ils étaient disposés à changer comme cela d'attitude. Et ils ont voulu encore faire mourir le Seigneur. Mais ils n'y sont pas parvenus. Le Seigneur a annoncé plusieurs fois sa mort. Plusieurs fois. Mais non pas de cette manière-là. J'ai oublié de vous dire, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, le diable a voulu le faire mourir d'une manière différente. Vous vous souvenez d'avoir lu dans l'Écriture que lorsqu'il était là, menant un combat en notre faveur, eh bien, les grumeaux de sang tombaient de son front jusqu'à terre. Et là, il était réduit à l'extrémité. Et c'est en invoquant le nom de Dieu qu'il a pu être délivré de cette mort. Vous vous souvenez d'avoir lu dans l'Épître aux Hébreux que c'est avec grand cri et avec larmes qu'il a supplié Dieu de le délivrer de la mort. Ça ne pouvait pas être de la mort de la croix. puisqu'il était venu pour accomplir cette œuvre. Alors il a été délivré de cette forme de mort que le diable voulait lui imposer. Mais Dieu le Père a veillé jusqu'au bout. Et finalement, eh bien, l'heure est arrivée où il a pu accomplir le plan de Dieu, où il a pu accomplir le dessein de l'Éternel. Et chose curieuse, voyez-vous, le Seigneur a pu discerner juste le moment précis où la volonté de Dieu devait se dérouler. Avant, ce n'était pas l'heure. Mais dans le texte que nous avons lu, Jésus a saisi que le moment était venu de se livrer en rançon pour nos âmes. Alors j'ouvre une parenthèse pour vous dire, les incrédules, les sceptiques, ils pensent que la mort du Seigneur, eh bien, ça a été la fin d'une sorte de révolutionnaire qui avait certaines ambitions et que finalement ses ennemis ont eu raison de lui. Mais nous tous, mes frères et sœurs, nous devons reconnaître un fait. Non, personne ne lui a enlevé la vie. C'est lui qui l'a donnée de lui-même. Au bon moment, quand Dieu le Père le voulait, personne ne lui a ôté la vie. Mais c'est lui qui l'offre. Et ceci est un baume pour mon cœur. De savoir que le Seigneur m'a aimé au point de supporter tant d'ignominies, tant de contradictions, tant de souffrances, tant de haine de la part des hommes, a souffert même de prendre sur lui le poids de nos péchés et de nos iniquités. Écoutez bien, mes frères et sœurs, nous, nous sommes habitués au contact du péché. Et de la même façon que, par exemple, quelqu'un qui a des mains rudes et qui est habitué justement à un certain travail particulièrement rude et qui a ses mains déformées par une activité manuelle et qui peut toucher un serpent sans même frémir. Mais si vous placez le serpent entre les mains d'un petit enfant qui, lui, a les mains tellement délicates, sa réaction sera différente. Pour nous, nous parlons du péché parce que nous avons tellement côtoyé le mal, nous avons tellement côtoyé le péché, nous avons tellement côtoyé ces choses iniques que finalement nous en parlons avec une certaine indifférence. Mais lui n'a jamais péché. Et pourtant la Bible dit que tout le poids du péché de l'humanité entière a été placé sur lui. Je comprends pourquoi. Dieu ne pouvait plus continuer à avoir les regards sur son Fils. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, eh bien, Jésus a poussé un cri en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et voyez-vous pourquoi Dieu l'a abandonné ? Simplement parce que il y avait là le péché qui était comme un obstacle à un véritable contact. Le péché est le moyen de séparation constant avec notre Dieu. Mais il a souffert cette séparation pour que nous, nous n'ayons plus jamais à la souffrir. C'est la raison pour laquelle ce matin, eh bien, la parole de Dieu ira dans ce sens, de nous montrer, mes frères et sœurs, que notre intérêt, c'est de disposer toujours nos cœurs à offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable, et nous ne pouvons offrir à Dieu un culte qui lui est agréable sans avoir le souvenir à l'intérieur de nous-mêmes de tout ce qu'il a accompli en notre faveur et qui nous pousse à dire ce matin que sans sa grâce, nous ne pourrions pas être là et nous serions encore esclaves de nos vices, de nos passions, de nos turpitudes, de tout ce qui nous caractérise naturellement. Mais grâce soit rendue à Dieu, aujourd'hui Dieu ne nous voit pas tels que nous sommes, mais revêtus de la justice de Christ. C'est la raison pour laquelle, eh bien, là, dans le texte que nous avons lu, nous nous apercevons que des personnes ont eu des cœurs différents en s'approchant du Seigneur et surtout en ayant la vision de sa mort future. Il y a deux personnes desquelles je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. Il s'agit de cette femme que notre évangile révèle comme étant Marie et qui est venue pour offrir un culte exceptionnel à son Sauveur et à son Rédempteur. Et par contraste, eh bien, nous allons voir que notre homme, qui savait aussi que Jésus allait mourir et pour cause, puisque c'était lui-même qui le livrait, eh bien, avait une disposition de cœur tout à fait différente. Mes frères et sœurs, quand nous venons le dimanche matin pour adorer le Seigneur, pour le servir, pour lui offrir un culte, dans quelle disposition de cœur sommes-nous? Je retourne à l'Évangile. Il est dit, Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Je voudrais m'arrêter un instant. Simon le lépreux, s'il a pu accueillir Jésus, s'il a pu accueillir les disciples, cela veut dire qu'il n'était plus lépreux. La médecine de l'époque n'avait pas de solution pour un lépreux. Qui avait pu guérir Simon? Le Seigneur Jésus. Comment pouvait-il exprimer sa reconnaissance au Seigneur Jésus? Eh bien, de cette façon très simple, je dirais en exerçant l'hospitalité, en accueillant Jésus dans sa maison, également les disciples. Il était là, dans ce lieu qui est appelé Béthanie. Béthanie, maison de souffrance, mais une maison dans laquelle si souvent le Seigneur Jésus s'est retrouvé. Et là, eh bien, une femme s'approche de lui tenant un vase d'albâtre qui renferme un parfum de grand prix. Matthieu se tait sur le prix et la valeur de ce parfum. Un autre évangéliste, c'est pourquoi c'est très intéressant de pouvoir lire tous les quatre évangiles, parce que ce qui manque à l'un, nous le trouvons à l'autre. Nous savons que cette femme, ici inconnue, est révélée comme Marie dans un autre évangile. Ici, on ne connaît pas le prix de ce parfum, mais un autre évangile nous dit 300 deniers. Alors j'ai essayé de comprendre ce que cela pouvait représenter comme valeur. Et j'ai appris que cela représentait, écoutez bien mes frères et sœurs, la valeur du salaire annuel d'un soldat ou d'un ouvrier de cette époque. La valeur annuelle. Ça veut dire, si je transpose à l'heure actuelle, disons, pour arrondir les choses, une moyenne de salaire de 1500 euros multiplié par 12, ça fait 18 000 euros. Quelle est la femme au milieu de nous qui possède dans sa maison un parfum de ce prix-là? Personne. Eh bien, elle possédait ce parfum-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Un prix qui est quand même tellement important. Puis elle arrive, simplement, discrètement. Et d'ailleurs, Matthieu semble ne pas bien saisir qui elle est, puisqu'il cache même son nom, à moins que ce soit volontairement qu'il ait fait cela. Et cette femme simplement s'approche du Seigneur. Elle brise le vase d'albâtre en ajoutant donc à la valeur, parce que le parfum était déjà d'un grand prix, mais un vase d'albâtre avait aussi une certaine valeur. Elle brise. Tout cela n'a aucune importance pour elle. Elle brise et répand le parfum sur la tête du Seigneur. Et on la voit là, dans une profonde reconnaissance. Jésus nous explique la raison pour laquelle elle a fait cela. Et il nous dit, alors qu'il fait des reproches aux disciples, desquels je vais parler dans un instant, il dit, laissez-la, ne lui faites pas de la peine, parce qu'elle a embaumé mon corps par avance pour le jour de ma sépulture. Ça veut dire que cette femme, même mieux que les disciples, qui pourtant avaient marché avec le Seigneur pendant 3 ans, qui avaient entendu ses messages, qu'il avait entendu annoncer sa mort, qu'il avait entendu qu'il devait être élevé sur la croix, ces hommes étaient là, presque indifférents, ils suivaient le Seigneur, ils étaient satisfaits dans cette maison, c'était comme une routine, comme quelque chose d'habituel. Mais cette femme, elle, eh bien, elle pleure et elle déverse tout ce qu'elle a sur la personne du Seigneur Jésus. Seulement pourquoi ? Parce qu'elle a compris que Jésus, par son œuvre rédemptrice, l'a sauvée. Vous voyez, mes frères et sœurs, cet état de cœur, cette disposition de cœur, c'est cela qui est agréable au Seigneur. Nous pouvons venir ici le dimanche matin, nous pouvons avoir certaines attitudes. Il y en a qui peuvent avoir une attitude religieuse, se donner un air de petit saint. Il peut y avoir différents gestes qui peuvent être accomplis. Il peut y avoir différentes paroles qui sortent de notre bouche. J'ai entendu quelqu'un ce matin dire, « Seigneur, regarde dans mon cœur et découvre l'amour que j'ai pour toi. » Car voyez-vous, il y a une grande différence parfois entre ce que nous disons avec la bouche et ce qu'il y a ici dans le cœur. Et le Seigneur ne se fie pas aux apparences. Vous savez aussi bien que moi, parce que la Bible le déclare, qu'il ne se fie pas aux apparences, mais qu'il voit dans le cœur. Et c'est vrai, comme notre frère Polito l'a mis en relief tout à l'heure, mais ça devrait être une joie immense dans notre cœur, en même temps que une certaine peine, nous allons voir dans quelques instants pourquoi. Parce que nous ne pouvons pas éviter de nous rappeler que s'il est mort à notre place et que nous sommes sauvés par sa grâce, pour autant, nous, il nous arrive si souvent de succomber au mal. Qui est parfait ? Qui est sans péché ? Nous le sommes parce que revêtus de la justice de Christ. Mais par ailleurs, vous vous rappelez de la parole de Jean ? Si quelqu'un parmi vous dit être sans péché, c'est un menteur. Ça veut dire donc que nous ne nous pouvons pas nous confier en nous-mêmes. Personne ne peut s'approcher du Seigneur au nom de ses mérites personnels. Personne ne peut s'approcher de la table du Seigneur au nom de ses mérites ou de sa justice personnelle. Jamais personne. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, attention à l'introspection que nous faisons le dimanche matin. Si l'introspection que nous faisons C'est pour nous abandonner davantage entre les mains de Dieu, reconnaître nos turpitudes et nous reconsacrer à Dieu. Alors béni soit le nom du Seigneur. Mais si notre introspection consiste à dire « Ah, cette semaine, il n'y a eu rien qui finalement me permet de dire que je suis en désaccord avec Dieu, aucun problème avec ma femme, aucun problème avec mes enfants, aucun problème avec un tel, aucun problème avec une autre telle. Écoute bien, tu as peut-être eu aucun problème avec les uns et les autres, mais ça c'est ta propre justice, et avec ta propre justice, tu ne peux pas être accepté de Dieu. Mais quand on prend conscience de notre misère, qu'est-ce qui arrive ? On ne vient pas en gonflant le torse, mais on vient en disant, « Seigneur, je suis ce que je suis et je ne peux rien cacher à tes yeux, mais ta grâce est suffisante. » Et je m'approche de la table, non pas avec ma justice, mais recouvert de ta justice. Et alors, qu'est-ce qu'on offre ? Bien, on offre notre vie. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je suis triste. Parce que le repas du Seigneur, c'est le moment où, reconnaissant le sacrifice que Dieu a fait pour nous, à notre tour, nous disons, « Seigneur, comme tu t'es donné pour moi, maintenant, en retour, je me donne à toi. Je me livre à toi. Je renouvelle ma consécration. Tout ce que je suis, mon être entier, je le mets à tes pieds. » Et il n'y a rien qui est trop cher alors pour le Seigneur. Ce sont les hypocrites qui, eux, comme les disciples, ont des réactions étonnantes. Intérieurement, ils disent, c'est dommage quand même. Tout cet argent, ne pourrions-nous pas trouver un autre moyen de l'utiliser ? Quel dommage ! Quel dommage ! Et vous, écoutez, il y a des moments où il y a de la place pour la philanthropie. Il y a des moments où nous pouvons nous occuper des pauvres. Il y a des moments où nous pouvons nous occuper d'œuvres sociales. Il y a des moments où nous pouvons faire autre chose que d'adorer Dieu. Mais il y a aussi des moments où nous n'avons pas le droit de faire autre chose que d'adorer le Seigneur. Parce que la Bible déclare que ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand nous sommes conscients de cela, alors rien n'est trop difficile. Je voudrais vous dire, j'ai constaté souvent que les églises oscillent entre ces deux extrêmes. D'un côté, les légalistes, et qui impose un tas de choses. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela, tu feras encore telle autre chose, tu ne te maintiendras pas de cette manière-là. Exactement, comme si dans le fond on était sous le joug d'un gendarme qui nous contrôle sans cesse, et c'est pesant, c'est quelque chose qui ne peut pas être agréable à Dieu. Et d'autre part, il y a les laxistes qui, au nom de la liberté soi-disant glorieuse des enfants de Dieu, se permettent n'importe quoi. Mais le juste milieu, c'est quand Christ est caché dans notre cœur et que nous sommes cachés en lui et que ce que nous faisons n'est pas le résultat de nos efforts, mais c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et quand c'est lui qui crée le vouloir et le faire, rien n'est trop difficile, rien n'est trop dur, rien n'est trop pénible. Et c'est aussi la raison pour laquelle aucun mérite ne revient jamais à l'homme, à n'importe quel homme, quel qu'il soit. Mais la gloire revient toujours à Dieu. Marie, elle, avait compris. Et c'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas tournée vers les disciples, elle s'est tournée vers le Seigneur. En passant, j'aimerais vous dire, elle n'a pas donné cet argent-là pour soutenir une œuvre quelconque, même pas pour soutenir un ministère, même pas pour quoi que ce soit d'autre. Elle l'a offert entièrement à Dieu. Prenons bien conscience de cela. Entièrement à Dieu. Le Seigneur sait dans quelle disposition de cœur, dans quel état d'âme nous sommes chaque fois que nous sommes à ses pieds et que nous nous tenons dans l'adoration à ses pieds. Par contraste, eh bien, regardez Judas. Lui, il dit « Dommage !» Dans un autre passage, dans un autre évangile, ce qu'il pense nous est révélé. On aurait pu vendre cela et le distribuer aux pauvres. Tiens donc, bien sûr. Écoutez, même si les disciples avaient eu la même pensée que lui, soyons honnêtes, cet argent qui aurait été mis dans la bourse n'aurait pas atteint le but. Pourquoi ? Parce que Judas était un voleur. Et comme il était un voleur, eh bien, il aurait puisé dans la bourse. Et ce que l'on prétendait être pour Dieu, eh bien, serait passé dans la bourse de Judas. Et cet homme-là, il est dans un état, je dirais, de traîtrise. Il est minable. On ne peut pas parler autrement de cet homme-là. Il sait ce que Jésus va faire, parce qu'il a entendu comme les autres. Il connaît le plan de Dieu, mais il refuse de l'admettre pour lui. Et il va, à un moment donné, eh bien, tout simplement tourner le dos au Seigneur. Mais par quel moyen ? Par quel moyen ? C'est Jésus qui, d'un seul coup, va déclarer quelque chose. Regardez, c'est comme un choc terrible pour tous les disciples. Ils étaient là, ensemble, on aurait dit que rien d'anormal se passait, mais tout à coup, la parole du Seigneur va comme les bousculer. Il y a des moments où il faut comme un électrochoc. Vous savez ce qu'il dit, le Seigneur ? Il dit, le Fils de l'homme va être livré. Jusque-là, peut-être que les disciples disaient, bah, ça c'est pas étonnant. Parce que Jésus, avec tous les ennemis qu'il a, pas étonnant qu'il soit livré, pas étonnant qu'il en arrive là. Le problème, c'est que Jésus ajoute, l'un de vous me livrera. Et ça, alors, est-ce que vous pouvez imaginer le frisson qui a dû parcourir, disons, ces disciples-là, qui à partir de ce moment-là se sont dit, mais c'est pas possible, l'un de nous. Et il y en a un, c'est Pierre, c'est toujours le même, hein. Il parle à Jean, il faut dire que Jean est tout près, là, du Seigneur, et il va lui dire, demande-lui qui c'est, demande-lui qui c'est. Mais il y a quelque chose que je veux reconnaître dans l'état de cœur des disciples, c'est que finalement, ils n'étaient pas si sûrs d'eux que ça, puisque les uns après les autres, ils disent, est-ce moi, Seigneur ? Est-ce moi, Seigneur ? Ça me fait penser à tous ceux qui, le dimanche matin, sont là, vivant sous les accusations du malin, qui leur rappellent certaines choses, certains défauts, certains travers, certaines paroles. Et ils sont là, Seigneur, est-ce que je suis digne ? Digne ? Et c'est dans cet état-là que se trouvent les disciples. Et ce qui est drôle, c'est que Judas, le traître, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, s'il ne disait pas comme les autres, il serait vite dévoilé. S'il avait été seul à ne pas dire « Est-ce moi ?» Eh bien, Jésus savait qui il était de toute façon, mais les autres auraient pu comprendre de qui il s'agissait. Mais jusque-là, il ne savait pas. Il ne savait pas. Et même quand Jésus a révélé à Jean qui c'était par un geste très particulier, Jean n'a pas eu le temps de le communiquer à Pierre. La preuve, c'est que quand il a dit à Judas « Ce que tu dois faire, fais-le promptement », tous ont pensé « Oh ben, c'est lui le trésorier, Alors, comme c'est le trésorier, peut-être le Seigneur lui a donné une mission particulière. Et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas imaginer encore que c'était lui le traître. Sauf que un moment est venu très, très particulier, où finalement, Jésus s'est adressé directement à Judas. Quand lui lui a posé la question, « Est-ce moi ?» Avez-vous remarqué comment Jésus répond ? Il dit, « Tu l'as dit. » Tu l'as dit. Il n'y a pas une accusation. C'est Judas lui-même qui se dévoile. Il dit, « Est-ce moi ? Tu l'as dit. » C'est-à-dire, il pouvait bien se reconnaître. Et comme il y avait un geste particulier que le Seigneur avait annoncé, le diable a pris possession de lui et il est parti. Je profite de l'occasion pour vous dire, Judas n'a pas participé à la Sainte-Cène. Judas n'a pas participé au repas institué par le Seigneur. Judas est parti avant. Parce qu'en fait, et c'est ce qui m'intéresse maintenant, on va oublier la traîtrise de Judas, on va oublier sa disposition de cœur, on va oublier qu'il a tourné le dos au Seigneur, on va oublier qu'il a tourné le dos à la rédemption. On va maintenant fixer notre attention sur les derniers gestes de notre Seigneur. L'institution du repas du Seigneur. Ça se passe pendant le repas de la Pâque. Je veux bien mettre en relief ceci. Vous savez, la fête de la Pâque, la manière de non seulement la préparer, mais aussi d'y participer, était bien réglée. Il y avait des étapes séquentielles bien préparées auxquelles on n'échappait pas. Et Jésus s'y est soumis pendant un moment jusqu'à ce que, au milieu de cette célébration, eh bien, on passe d'un seul coup de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et il met en relief ce qu'il établit et que nous devons garder précieusement dans notre cœur. Mais comment se célébrer la Pâque juive ? Bien, dans un premier temps, on sert la coupe initiale et cette coupe-là, elle est mêlée avec de l'eau. Tout simplement parce qu'on ne désire pas que pour célébrer cette fête, qui est une fête à la gloire de Dieu, puisque c'est le rappel de la délivrance d'Israël qui est sorti de l'Égypte, on ne veut pas qu'il y ait un état d'ivresse. Et après avoir fait cela, et vous vous souvenez, dans un évangile, chose curieuse, nous on sert le pain et la coupe après. Et dans un évangile, il est dit, Jésus prit la coupe, et puis ensuite, il a pris le pain, puis ensuite, il est dit aussi qu'il a pris la coupe. Ça veut dire donc que la coupe qui constitue le repas du Seigneur, ce n'est pas du tout la même que le Seigneur a prise initialement, parce que cela, c'était un geste pour accomplir ce qui était rituel chez les Juifs. Après, il y a une deuxième séquence. Et cette deuxième séquence, c'est qu'on fait précéder la partie principale qui est le moment où l'agneau rôti va venir, d'une cérémonie particulière qui est le lavage des mains. On doit se purifier les mains. Et vous avez certainement lu dans d'autres évangiles qui rapportent exactement les mêmes choses, que c'est à ce moment-là précis où il y a le lavage des mains que quelque chose se passe dans le cœur des disciples. Vous allez être étonnés. Le lavage des mains, c'est symbole de purification. Mais entre parenthèses, se laver les mains, ça ne signifie pas avoir un cœur purifié. C'est dans ce moment précis que Jésus surprend une conversation. Les disciples parlent entre eux, et savez-vous de quoi ils parlent? Ils se demandent qui est le plus grand parmi eux. Vous vous rendez compte? À ce moment précis, qui est le plus grand parmi eux? Et c'est aussi à ce moment-là que Jésus va au-delà du lavage des mains. Alors il se lève de table. Vous voyez, il se lève de table. Il ôte ses vêtements. Il se ceint d'un linge, le linge du serviteur. Il devient comme le serviteur. Et il se met aux pieds des disciples et il commence à vouloir leur laver les pieds. Et Jésus va donner un enseignement, pas seulement par son geste, mais aussi en parole. Et à cette occasion, il va leur dire, écoutez bien, les grands de ce monde, les grands des nations les tyrannisent. Et malgré ce qu'ils font en les tyrannisant, ils sont encore appelés bienfaiteurs. Mais vous, dit-il, ne soyez pas comme cela. Et il ajoute, le plus grand parmi vous, en réalité qu'il soit le plus petit, est celui qui gouverne comme étant celui qui sert. Vous vous rendez compte? Vous voyez la préparation au repas? Vous voyez comment le Seigneur est en train de bien disposer les cœurs pour qu'ils s'approchent du repas du Seigneur avec une attitude tout à fait différente. Et j'imagine qu'ils n'ont pas dû oublier cette leçon-là. Ils ont dû garder cela, d'autant plus que le Seigneur dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait ? » Eh bien, continuez à le faire. Une certaine secte continue à le faire d'une manière ostensible et visible et physiquement. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur enseignait. Ce que le Seigneur enseignait, c'est que nous devons nous exhorter mutuellement pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Comprenez bien cela, mes frères et sœurs? C'est là l'état d'esprit, l'état de cœur dans lequel nous devons nous trouver les uns et les autres. Et alors, après avoir fait cela, alors le maître va agir troisièmement par une attitude encore différente. Le repas pascal est là, on mange les herbes amères d'abord avec du pain sans levain, les herbes amères pour que le peuple se rappelle de la souffrance quand ils étaient en Égypte, et ces herbes amères avec le pain sans levain sont trempées dans une sorte de pâte qui est faite par des fruits écrasés et des noix écrasées, et c'est brunâtre, ça ressemble à la boue dans laquelle ils travaillaient pour fabriquer les briques. Ils doivent se rappeler de tout cela, comme chacun d'entre nous. Nous ne devons jamais oublier ce que nous étions avant de le connaître. Il nous arrive parfois d'oublier et nous nous enorgueillissons. Mais le Seigneur désire que nous n'oublions jamais d'où il nous a retirés. Et une fois que cela est fait, alors il prend la deuxième coupe. Et celle-là, elle est importante. Et il donne une explication, le chef de famille, de ce qu'est la Pâque, et ensuite on chante des cantiques, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir l'établissement de la Sainte Cène. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tout cela pourquoi ce matin finalement? Parce que j'ai envie que nous prenions toutes les précautions nécessaires, que nous soyons sensibles à tout ce que l'on exige pour éviter tout ce que l'on doit éviter afin que nous ne soyons atteints d'aucune maladie. Mais en même temps, j'aimerais vous dire, n'oubliez pas quand même, mes frères et sœurs, que le pain que nous partageons est appelé le pain d'effort, que la coupe que nous buvons est appelée la coupe de délivrance. Et c'est justement cette coupe de bénédiction, je ne vois pas la raison pour laquelle, quand nous sommes dans l'état d'esprit que Dieu veut, l'état de cœur que Dieu veut, que nous sommes dans l'obéissance au Seigneur et que nous gardons en étant revêtus de la justice de Christ, cette communion avec lui, lui n'aurait pas le pouvoir de nous garder, de nous préserver. Je dis bien en prenant toutes les précautions nécessaires. Ce n'est pas parce qu'il nous garde que nous sommes dispensés de nous garder. Par exemple, je vous donne un témoignage tiré de la Bible. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Vous le connaissez ce verset. Et il en est de même donc pour la ville de Jérusalem. Le même Dieu qui dit qu'il ne dort pas, qu'il ne sommeille pas, qu'il veille sur son peuple, qu'il garde et qu'il garde la ville, demande à ceux qui ont construit la ville de mettre des verrous aux portes de la ville. Je pourrais me poser la question, si Dieu garde, à quoi servent les verrous? J'ai presque envie de dire, si Dieu garde, à quoi servent les portes? Alors j'aimerais vous dire, Dieu veille sur nous. Prenons quand même les soins. Prenons les soins. Mais ne supprimons pas ce que Dieu a instauré. Parce que c'est grave. Et en même temps, ça nous empêche quoi? De réfléchir à toutes ces choses, de faire le point dans notre vie, de faire le point en nous-mêmes. Mais peut-être, mes frères et sœurs, en sommes-nous arrivés à être tellement religieux que nous nous habituons à des choses que nous faisons comme un rite et ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que ce soit un cœur brûlant d'amour pour lui. Et quand nous le faisons avec un cœur brûlant d'amour pour lui, alors nous pouvons vraiment ensemble constater que dans cette nouvelle alliance, il y a une riche bénédiction. Et vous remarquez, quand il a donné la coupe, il a dit « ceci est la coupe » et il dit « c'est la nouvelle alliance en mon sang ». C'est mon sang. Mais ce n'est pas comme une certaine religion a pensé qu'il y a une sorte de transformation mystérieuse. Non! Non, absolument pas. Quand Jésus a dit « Je suis le cep », personne n'a pensé qu'il était un cep. Quand il a dit « Vous êtes des serments », personne n'a pensé que nous étions des serments. Tout cela, c'est métaphorique. Eh bien, là, il dit « Ceci est mon sang », mais le sang de la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, du temps de Noé, du temps d'Abraham, du temps de Moïse à Sinaï, chaque fois qu'il y a eu une alliance, vous le constaterez, eh bien ça s'est fait par le sang. Et la Bible dit quelque part, vous connaissez ce verset aussi bien que moi, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Mais ce sang-là qui a été versé, il a une valeur infinie parce que c'est par un esprit éternel que le Seigneur s'est offert. Dans la nouvelle alliance, c'est ça. Et quand nous participons au repas du Seigneur avec cet esprit-là, avec cette mentalité-là, avec une disposition de cœur qui honore et qui glorifie Dieu, nous n'avons rien à craindre, mais au contraire, nous pouvons être plus que vainqueurs par sa grâce. Que Dieu vous bénisse et puisse vous aider à saisir combien c'est important que nous retrouvions la voie de l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur.